Bonjour à tous et à toutes, c'est Radio Libertaire, la santé dans tous ses états, comme le troisième lundi des mois impairs, voilà. Donc aujourd'hui avec Gérard, bonjour Gérard.
Bonjour.
Nous avons le plaisir d'accueillir François Pesty, bonjour François Pesty.
Bonjour.
Nous allons parler au cours de cette émission de politique du médicament, d'économie du médicament, et nous allons aborder un sujet qu'on a déjà traité ici. Pour ceux qui nous suivent depuis l'origine de l'émission, on se rappelle avoir accueilli il y a très longtemps Philippe Pignard qui nous avait parlé donc de l'industrie et du grand secret de l'industrie pharmaceutique. Finalement, ça fait 10 ans hein, qu'on a fait cette émission et on se pose finalement encore ces questions qui restent d'actualité, qui bien entendu ont évolué au cours des ans. François Pesty, j'aimerais d'abord que vous nous dites quel est votre parcours, vos centres d'intérêt et en particulier tout ce que vous faites autour de la question du médicament.
Eh bien écoutez, j'ai 59 ans, je suis pharmacien de formation, ancien interne des hôpitaux de Paris. J'ai fait une grande école de commerce et puis j'ai commencé, après mon internat, mes 4 années d'internat dans les hôpitaux de Paris, j'ai commencé une carrière dans l'industrie pharmaceutique pendant 15 ans. Et nous sommes quittés en 2002 et depuis je suis consultant, expert conseil indépendant. Je tiens à dire que je n'ai aucun lien d'intérêt avec les firmes qui commercialisent des produits de santé.
Vous dites lien d'intérêt et pas conflit d'intérêt.
Alors c'est la même chose. Hein. Lien et conflit d'intérêt, c'est strictement la même chose. On ne peut pas distinguer des petits... liens d'intérêt ou des conflits d'intérêts mineurs et des conflits d'intérêts majeurs. Voilà, bon, les liens d'intérêt, les conflits d'intérêt sont des éléments qui peuvent entraîner un doute et une confiance et qui vont faire que un praticien va avoir une pratique qui ne sera pas conforme à l'état de la science et qui va dévier, notamment lorsqu'il y a des enjeux financiers.
Avec au final une conséquence péjorative pour le patient, finalement. C'est ça le risque du conflit d'intérêt.
Tout à fait. Moi, ce qui m'importe, hein, lorsque je travaille, et j'ai beaucoup travaillé sur la base Transparence Santé, quand je travaille sur un sujet... où il y a des conflits d'intérêts avérés. Ce qui m'intéresse, c'est de les relier avec soit une pratique qui a dévié des preuves scientifiques, soit des recommandations qui sont également détournées, qui sont biaisées. Hein. Je crois que c'est important. Il faut avoir énormément de pédagogie dans ce domaine-là pour expliquer, montrer de nombreux exemples pour que les gens s'imprègnent de cette notion essentielle qui est l'objectif qu'on aimerait avoir, qu'une association à laquelle j'appartiens, qui est le Formindep, puisse obtenir, c'est ce qu'on appelle l'indépendance de l'expertise sanitaire. L'indépendance de l'expertise sanitaire. Alors on en est très très loin, parce qu'on a des gouvernants, je pense à la ministre Madame Buzyn, qui avait été auditionnée par la commission des affaires sociales du Sénat sur un rapport sur l'indépendance de l'expertise sanitaire en 2015, et avec une de ses collaboratrices d'ailleurs, qui doutait de l'importance d'éviter les conflits d'intérêts chez les experts. Donc, il y a beaucoup de travail.
Voilà, donc ça, c'était la...
Alors, je reviens peut-être...
Voilà, je vais vous relancer sur votre parcours et sur vos centres d'intérêt.
Voilà, donc je suis expert conseil indépendant pour une prise en charge médicamenteuse mieux sécurisée, premier point, plus pertinente et plus efficiente. Alors, c'est un vaste programme et c'est vrai que ça n'attire pas grand monde, hélas, dans le... la biosphère, que notamment dans notre pays, en France. Mmh. Hein, voilà.
Donc, on voit bien, vous exercez en tant qu'expert, on peut dire ça comme ça.
Alors, je travaille surtout depuis plus de 15 ans sur des missions qui concernent la sécurité du circuit du médicament à l'hôpital. J'ai travaillé plus d'une demi-douzaine de fois pour accompagner des campagnes de visites médicalisées des délégués de l'assurance maladie portant sur le médicament, des missions où on a produit d'excellents résultats. C'est d'ailleurs, j'ai été auditionné dans le cadre d'un rapport de l'IGAS sur l'information des médecins généralistes sur le médicament. Et la plus belle mission a été la première d'ailleurs. On a réussi à impacter de façon considérable sur la prescription des antibiotiques avec la caisse primaire de l'Aude et son directeur Laurent Jalado. Nous avions réussi à faire passer l'amoxicilline dans un panier de 29 antibiotiques utilisés dans infections respiratoires hautes et basses de 19,6% en 6 mois et 4 visites chez les médecins généralistes qui représentaient 75% des prescriptions en montant par l'assurance maladie. Nous avons fait passer cette part de l'amoxicilline en patientèle de 19,6% à 36,4%, c'est-à-dire un bond de 77%. Donc c'est considérable. Et voilà, aujourd'hui...
Excusez-moi, oui. ça se traduit comment en termes de coûts? Parce qu'on va se dire, on va consommer...
1 million d'euros en moins.
C'est ça, parce que la l'amoxicilline...
C'est une petite caisse. Hein, c'est-à-dire que là, si on avait fait le même programme de visite avec un contenu de visite exigeant, ce que ne fait pas la CNAM aujourd'hui, hein, je dénonce le caractère inopérant, totalement inopérant, de la visite des dames organisée par la CNAM depuis des années maintenant, hein, avec des visites qui ne sont pas itératives, avec des contenus de visite qui sont insignifiants. C'est-à-dire que la CNAM s'interdit, par exemple, de présenter des études cliniques aux médecins. Elle se réfugie derrière des recommandations biaisées de la Haute Autorité de Santé. On vient de voir comment le Formindep, en dénonçant devant le Conseil d'État, a fait abroger les recommandations sur les hypolipémiants élaborées par des experts très proches des firmes de la Haute Autorité de Santé.
Juste pour revenir sur cette question très pratique, donc vous faites passer la prescription d'un antibiotique, en l'occurrence l'amoxicilline, d'environ 18-19% à 33% de l'ensemble des prescriptions d'antibiotiques pour les infections respiratoires hautes et basses.
Exactement.
Je pense que c'est au détriment d'autres antibiotiques.
Absolument. Voilà. Absolument.
D'autres antibiotiques qui sont à la fois...
Les céphalosporines de deuxième, voilà, troisième génération, voilà, l'oroquène et un certain nombre
d'antibiotiques,
les fluoroquinolones, voilà, et bien sûr les macrolides qui étaient largement utilisés.
Bien sûr, ce qu'il faut préciser pour nos auditeurs, c'est que
l'amoxicilline
qui est une dérivée des pénicillines, donc des tout premières antibiotiques mis sur le marché il y a maintenant 70 ans quasiment. C'est le médicament le moins cher.
C'est le moins cher.
Dans la classe des antibiotiques.
Absolument. Alors, il y a deux choses. Sur cette campagne, on a eu des résultats qualitatifs, c'est-à-dire sur le choix de l'antibiotique. Et donc, comme vous le résumiez, effectivement, on a fait dégringoler tous les autres antibiotiques qui n'apportaient pas finalement, parce qu'on a montré des essais cliniques, notamment, j'ai fait deux campagnes. J'ai fait une campagne avec la seule caisse de l'Aude, et l'année suivante, on a fait la même campagne avec 5 des 6 caisses de la région Languedoc-Roussillon. Mmh. Il y avait Nîmes, Montpellier, Béziers, Perpignan, qui ont participé. On a eu pas tout à fait les mêmes résultats. Il faut dire qu'on a été auto-censuré par la CNAM, qui finançait la deuxième campagne, avec les médecins conseils de la CNAM qui ont interdit d'utiliser une partie de l'argumentation. On a quand même argumenté avec des pages dans un pressbook et montré, notamment, on avait 3 études multicentriques dans la pneumonie communautaire non sévère qui montraient que l'amoxicilline utilisé pendant seulement 72 heures, arrêté si les symptômes avaient évolué favorablement, n'était pas moins efficace que lorsqu'on poursuivait pendant 10 jours le traitement. Donc vous voyez, quelque chose qui était de nature à rassurer les médecins généralistes qui étaient d'anciens prescripteurs d'amoxicilline, qui avaient au fil du temps abandonné sous la pression des visites médicales les autres antibiotiques au profit par exemple de l'amoxicilline associée à l'acide clavulanique. Le streptocoque du groupe A n'est pas producteur de bêta-lactamase. Donc ça sert à rien. Et on traite surtout des angines. On traitait parce qu'aujourd'hui, les complications post-streptococciques sont devenues rarissimes, notamment en métropole. Hein. Donc il y a même au colloque de Bobigny, on a Jacques Birger, qui est vice-président de l'association Lorraine régionale sur le bon usage des antibiotiques, a proposé, lui, carrément, de ne plus prescrire d'antibiotiques du tout dans l'angine.
Et oui, c'est une,
voilà, c'est une option.
Hein. On a appris le contraire.
Voilà. Alors, donc, je disais, on a eu des résultats sur le plan qualitatif, et c'est des résultats très spectaculaires. Quand vous avez une prescription qui augmente de 77% en 6 mois et 4 visites, c'est quand même assez remarquable. Et on a eu aussi une réduction globale du volume de prescription. Alors, sur ce sujet-là, aujourd'hui, et ces campagnes ont été faites, c'était l'hiver 2005-2006 pour la première, 2006-2007, vous voyez, ça fait quand même quelques années. Depuis, s'est développé ce qu'on appelle l'antibiorésistance, qui est une véritable menace pour tous les Européens et partout dans le monde. Et aujourd'hui, je pense que je miserai, en termes d'argumentation, sur deux choses très importantes. La surestimation massive de la part des médecins de l'efficacité des scores cliniques. Hein. Le MAC-ISAC, pour ne pas le nommer. Le MAC-ISAC, il y a des études américaines où on a interrogé les patients et les médecins. Hein, et on a examiné tout ça. Le MAC-ISAC ne permet pas de faire plus de 55% le bon choix. C'est-à-dire qu'on est juste 5% au-dessus de lancer une pièce de monnaie pile ou face et tirer au sort, je vais prescrire l'antibiotique pour décider identifier une angine d'origine streptococcique du groupe A. Il faut, ces scores cliniques sont tout à fait inefficaces. Hein. Et les médecins qui utilisent beaucoup le score ISAC surestiment l'intérêt de ce test. Le seul test valable, c'est bien sûr le test rapide de diagnostic de l'angine.
Oui, on met un écouvillon dans la gorge du patient.
Qui n'est pas pratiqué. Les pharmaciens étaient prêts à le faire. Il y a eu une expérience en Île-de-France Et bon Dieu, quoi, bon, demander au patient de rester 5 minutes dans la salle d'attente après lui avoir fait un prélèvement de gorge et attendre 5 minutes pour voir si vraiment ça tourne en faveur d'une angine streptococcique, c'est pas la fin du monde quand même. Les médecins devraient pouvoir le faire, ça. Bon, alors, la deuxième chose sur laquelle j'argumenterai aujourd'hui, c'est la surestimation massive de la part du médecin de l'attente et de la demande du patient en matière d'antibiothérapie. Ça, c'est une erreur colossale. Et là aussi, il y a des belles études bien faites aux États-Unis qui en portent sur un nombre important de patients et de praticiens et qui démontrent que le médecin surestime d'un facteur 2 à 3 la demande d'antibiotiques de la part de son patient. Bon. Alors, ensuite, il y a les arguments de l'antibiorésistance. L'ANSM a...
juste un petit mot.
Oui, je voudrais juste terminer sur ce sujet.
Juste la définition d'antibiorésistance, si vous permettez, c'est juste simplement le fait que des antibiotiques deviennent inefficaces.
Absolument.
Vis-à-vis des bactéries contre lesquelles ils étaient originaires.
En 2012, il y aurait eu 12 500 décès liés à des infections multirésistantes, des bactéries multirésistantes. Et donc, depuis cette étude qui a marqué les esprits, je crois, l'ANSM a défini un certain nombre d'antibiotiques que l'on appelle les antibiotiques...
Je ne pourrais pas vous aider pour la définition.
Alors, là-dedans, il y a des antibiotiques qu'il faut ne pas utiliser, qu'il faut savoir préserver et ne pas prescrire.
Donc, les antibiotiques qui sont en deuxième ou troisième
ligne. Les fluoroquinolones, l'association amoxicilline-acide clavulanique, la rocéphine, donc c'est-à-dire le...
C'est phéroxime.
Non, c'est pas le céphiroxime. C'est le
bon. C'est, bon ça enfin, ça intéresse pas beaucoup les auditeurs.
Non, 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 plus, non. Mais c'est un antibiotique qui est, c'est le seul antibiotique qui est en injectable et qui est très souvent prescrit aux personnes âgées, hein, parce qu'on est sûr comme ça qu'ils ont le médicament. Et donc ces antibiotiques-là, il faut les éviter, en éviter l'usage. Et donc l'amoxicilline. Revient vraiment comme le premier recours antibiotique en ville. Hein. Il est inutile de prescrire autre chose. Et pourtant, moi, j'avais fait l'état des lieux il y a 2 ans au colloque de Bobigny. On avait fait un atelier antibiorésistance. Et donc, on avait regardé 2 choses qui étaient les infections, les antibiotiques utilisés dans l'infection respiratoire haute et basse et les infections urinaires. Hein, les infections urinaires. Et donc, les pratiques ne collent toujours pas aux recommandations. Hein. Alors, c'est un domaine où les leaders d'opinion sont moins liés au laboratoire aujourd'hui, depuis quelques années, parce que la quasi-totalité des antibiotiques ont perdu leur brevet, hein, et donc sont dans le domaine public. Et donc, il n'y a plus beaucoup de financement. Et on a des recommandations qui commencent à toucher une asymptote de recommandations de qualité. Bon, elles ne sont pas suivies.
Bien sûr. Ah. Je crois que Gérard...
Juste, oui, alors, deux choses. La première, une précision, puisque tu as défini l'antibiorésistance. Je voudrais lutter contre des idées reçues. On ne devient pas résistant aux antibiotiques. De même que les bactéries, elles peuvent le devenir parce qu'elles s'échangent du matériel génétique. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une pression de sélection. C'est-à-dire, quand on met un antibiotique, on tue, pour ainsi dire, les bactéries qui sont sensibles à cet antibiotique et on conserve celles qui sont résistantes. Donc, on sélectionne celles qui sont résistantes et qui vont circuler et donc qui vont être plus fréquentes dans les infections. Voilà, ça, c'est une mise au point. Mais je voudrais revenir sur la première partie de votre intervention et sur le fait d'utiliser des anciens médicaments, des médicaments qu'on connaît bien, dont on connaît les effets indésirables, dont on connaît l'efficacité, et de les utiliser mieux. Je remarque qu'en Angleterre, il arrive qu'on ait des études faites par les pouvoirs publics, financées par les pouvoirs publics, pour voir comment on peut utiliser encore mieux ces médicaments qu'on connaît bien, qui sont des médicaments de base. En France, alors, on n'a jamais
alors,
fait
alors,
ça.
Alors justement, ça m'amène à vous présenter quelque chose. Lorsque j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, j'ai créé ce que j'ai appelé l'Institut PUPEM, l'Institut pour une prescription plus efficiente du médicament. Bon. Et j'avais fait un business model. L'idée, c'était de créer une visite médicale indépendante, financée par de l'argent public. Hein. Et j'avais répondu à un appel d'offres de l'Agence du médicament à l'époque, dans le cadre des FOPIM qu'avait créé Gérard Kouchner.
Bernard Kouchner.
Bernard Kouchner, oui, lapsus révélateur.
Qui dirige d'ailleurs le quotidien du médecin.
Absolument, Décision Santé, Le Généraliste et Le Quotidien du Pharmacien, etc. Un empire de presse voilà, qui dépense beaucoup d'argent en publicité sur le médicament. Et donc, il s'agissait de faire la promotion auprès des médecins généralistes, justement, de vieilles molécules qui sont encore tout à fait, en termes de niveau de preuve, les médicaments à privilégier en première intention dans bien des indications. Alors, c'était le cas, par exemple, des antihypertenseurs, des hypolipémiants. Alors, je peux prendre l'exemple, la pravastatine, hein, qui est la meilleure statine, celle qui a des preuves d'efficacité sur le critère dur de la mortalité toute cause, à la fois en prévention primaire et en prévention secondaire. C'est la seule. C'était le cas des IEC. Le plus vieux IEC, le captopril, avec l'étude Sève. On n'a pas fait mieux sur les critères de mortalité depuis 1992.
C'est un médicament contre l'hypertension.
Oui, alors ça m'amène à vous dire que les Artans, eux, on sait maintenant. Et j'ai d'ailleurs fait une campagne assez récente avec une caisse d'assurance maladie sur la prescription des médicaments du système rénine-angiotensine. Les Artans, je peux l'affirmer aujourd'hui. La NSM avait d'ailleurs fait un point presse il y a 3-4 ans maintenant avec les 2 premières méta-analyses, mais moi j'en ai maintenant 5 méta-analyses, dont 4 qui sont comparatives IEC-Artan. Les Artans ne sauvent pas de vie. Les Artans n'ont aucun effet sur la réduction de la mortalité toute cause. Aucun effet sur la réduction de la mortalité cardiovasculaire, aucun effet sur l'incidence des infarctus du myocarde. Ils sont moins efficaces sur l'AVC que les IEC. Ils font à peu près aussi bien que les IEC sur deux choses qui sont l'évolution de l'insuffisance cardiaque gauche et qui sont les nouveaux cas de diabète. Et ces cinq méta-analyses ont été faites dans des situations très diverses de sélection des patients. Hypertension essentielle dans une étude européenne. Patients diabétiques, patients à haut risque cardiovasculaire. Vraiment, il faut savoir que ces artans, en plus de cela, il y en a trois qui sont dangereux. Alors un qui a été déremboursé en France, c'est l'olmesartan. La raison, c'était des complications, des entéropathies sévères. Mais la vraie raison qui aurait dû prévaloir, c'est que dans un essai randomisé, roadmap, eh bien, il y a quatre fois plus de décès cardiovasculaires dans le groupe traité par olmesartan par rapport au groupe placebo. Quatre fois plus de décès cardiovasculaires. Il y a deux autres artans qui sont dangereux parce qu'ils sont associés à davantage de cas de nouveaux cancers ou de décès par cancer. Donc, il y a le camp des artans dans l'étude Charm Overall qui significativement est associé à plus de décès par cancer. Il y a le telmisartan dans une méta-analyse de 7 essais réalisés et totalisant 7000 patients. Pareil. Et il y a surtout, et ça, la CNAM ne l'a même pas vu parce que la CNAM ne lit pas Journal of Clinical Oncology. À une époque, je téléchargeais les mises en concurrence, les appels d'offres publics sur le BOAMP. Et il y avait la CNAM sous-traitait ses abonnements aux revues médicales. Et dans la liste qui était fournie, il n'y avait pas JCO. Hein. Et dans JCO, Taïwan, qui a le SNIRAM. Il y a le SNIRAM, mais avec un recul plus important qu'en France. SNIRAM, 25 millions d'habitants, c'est-à-dire la base de données médico-administrative complète, chaînée avec les registres de décès et les registres de cancer, n'est-ce pas? Et donc, Taïwan a montré au niveau de la population entière que les patients diabétiques qui débutaient un traitement antihypertenseur, eh bien, avait pour deux artans seulement, et c'est celle-là, le telmisartan, le candésartan, une augmentation de près de deux, un doublement des risques de cancer.
Alors, juste...
je termine en disant que l'ANSM a retiré l'AMM de la pioglitazone pour moins que ça, avec des cancers de la vessie.
Oui, pioglitazone, c'est voilà. Un médicament qui est indiqué dans le diabète. Oui.
Donc, voilà, si on regardait aujourd'hui l'intérêt des artans, et pourtant ils sont encore majoritairement... C'est assez. C'est moins. L'asymétrie est un peu différente. Je l'ai regardé récemment. Hein, mais c'est encore la classe en nombre de boîtes remboursées, les artans, la plus prescrite.
Avant les IEC, c'est ça?
Avant les IEC.
Dans,
oui.
Dans
les IEC, en sachant qu'il y a un IEC qui déforme un peu tout ça, c'est le périndopril de Servier qui a été largement promu, qui a contourné l'arrivée des génériques, qui a été promu sur des études peu éthiques, parce que quand on donne le placebo à des patients âgés qui ont une hypertension sévère, 160 mm de mercure, pour montrer qu'on a un bénéfice. Oui, bah oui, versus placebo, oui, c'est normal que c'est le seul cas d'ailleurs où on a démontré une efficacité des traitements antihypertenseurs, c'est dans l'hypertension sévère, hein, à partir de 160 mm de mercure, puisque au jour d'aujourd'hui, même après l'étude SPRINT, hein, qui est très critiquable, l'étude SPRINT qui a été interrompue avant son terme.
Qui sont très critiquables.
Oui, non, mais elle est très critiquable. Eh bien, on n'a pas fait la preuve que de traiter entre 140 mm de mercure et 160, c'est-à-dire pour des hypertensions modérées, hein, on ait un bénéfice sur la mortalité, toute cause ou même cardiovasculaire.
Juste une petite précision, les recommandations américaines en sont à 13,8. Et suivi en partie par les recommandations européennes, au moins chez certaines populations.
Il y a quand même certains spécialistes qui ont refusé d'appliquer et qui n'ont pas cautionné, hein, même
des
cardiologues qui ont
protesté.
C'est un sujet qu'on abordera peut-être un peu plus tard là, sur les nombres de patients à traiter. Il y a un très très bel article sur la toile américaine qui montre que les NNT dans l'étude SPRINT sont très élevés. Hein. Il faut traiter 85 patients pour pour avoir un seul qui est un bénéfice. Hein.
Juste avant de terminer cette première partie, revenir sur le point de départ. Vous êtes donc missionné du temps de Bernard Kouchner.
Non. J'ai répondu à un appel d'offres du ministère de l'ANSM à l'époque.
L'ANSM, Agence nationale de.
Mais j'avais prévu un business model qui permettait en plusieurs années de dépasser le milliard d'euros d'économies simplement en switchant, en accompagnant les médecins pour qu'ils switchent vers des vieilles molécules et qu'ils abandonnent les molécules largement promues par les firmes qui ne font pas mieux. Alors là, je voudrais dire quand même, là aussi, quand on regarde de près, on va reprendre l'exemple de l'hypertension artérielle, quand on voit que l'ercanidipine, l'ercapresse, est devenu le premier inhibiteur calcique le plus prescrit en France, devant l'amlodipine. Alors qu'on a au moins 5 études financées par de l'argent public aux États-Unis, hein, dont ALAT, qui montrent le bénéfice de l'amlodipine chez différents types de patients, hein, sur des critères durs de morbi-mortalité cardiovasculaire. Et qu'on apprend, quand on regarde, on creuse un petit peu, qu'on regarde la lercanidipine, qu'on a 3-4 études italiennes avec 100 Italiens dans chaque groupe, randomisées, double aveugle, mais uniquement sur l'efficacité tensionnelle. Quand on voit qu'une classe entière, les artans, font baisser de la même façon que les IEC, la tension artérielle, mais qu'il n'y a pas d'association avec un bénéfice sur de la morbimortalité, la mortalité toute cause, cardiovasculaire, les infarctus du myocarde, comment peut-on prescrire aujourd'hui, en 2018, un antihypertenseur qui n'a pas fait la preuve d'un bénéfice sur de la morbimortalité? Et c'est pas le seul, parce que si on prend les bêta-bloquants, le bisoprolol, c'est bisounours, hein, c'est pour les bisounours le bisoprolol. Il n'y a rien sur le bisoprolol. On prend les diurétiques thiazidiques, l'hydrochlorothiazide qui est dans toutes les associations diurétiques Zartan ou IEC n'a pas été évalué. Le Fludex est mieux évalué. Hein. Le NICE, à une époque, avait dit c'est les apparentés. Fludex, et puis là, il y a un diurétique thiazidique apparenté qui avait été utilisé, c'est la chlortalidone, voilà, ça me revient, ça. Qui était de Novartis, que Novartis a retiré du marché lui-même, parce que c'était tellement peu cher, ce médicament, que ça ne l'intéressait plus. Hein. Et il n'y a pas un génériqueur pour proposer en France la chlortalidone, qui a été évaluée dans ALAT, par exemple. Voyez. Mais je peux prendre plein d'exemples comme ça.
Et donc, vous aviez proposé cette...
Alors, j'avais proposé un système de visite médicalisé, financé par l'argent public, j'avais fait un business model. Je vous garantis que en intervenant dans 6 classes thérapeutiques, il y avait les IPP, les anti-H2, hein, qu'on n'aurait pas dû dérembourser d'ailleurs, parce que du Tagamet ou ces médicaments dans le RGO, qui est la principale indication des IPP, coûtaient beaucoup moins cher. Ils étaient efficaces chez 2/3 des patients, hein, au moins. Il y avait les statines et l'ensemble des hypolipémiants, il y avait les antihypertenseurs du système rénine-angiotensine, il y avait les antidépresseurs, hein, il y avait 6 classes comme ça, et je mangeais pratiquement la totalité ou 70% du budget qui était alloué au FOPIM, hein, au fond pour, c'était l'optimisation de la prescription, quelque chose comme ça, que Bernard Kouchner, bien sûr, avait mis en place. Il n'y a pas eu de suite. Et puis après, donc moi, mes accompagnements, j'en ai fait quand même 2 sur les antibiotiques. J'en ai fait 3 sur les statines. J'ai accompagné la Caisse de la Manche, en plus de la Caisse de Montpellier et celle de l'Aude. Et puis, j'ai été même à Nouméa. J'ai accompagné la Caisse, la CAFAT. On a lancé simultanément sur une semaine. Alors évidemment, c'était des formations intensives, hein, et c'était une documentation des supports de visite, l'accès aux études, la formation sur les études. Hein, donc ils avaient des choses à raconter, les dames que j'ai accompagnées. Hein.
Les
délégués de l'assurance maladie. Ils avaient des choses intéressantes, ouais. et les médecins reprenaient rendez-vous. Alors, un des aspects aussi très importants de ces campagnes, c'est que j'avais eu accès aux prescriptions individuel de chaque médecin et que je faisais des outils, des profils de prescription détaillés. Et mieux que ça, j'avais des graphiques, des analyses graphiques détaillées de la prescription. Je démarrais avec 2 ans de prescription mensuelle que je mettais en base de données et je faisais les courbes d'évolution. Et donc, les médecins disaient banco. C'est-à-dire qu'on avait 2 choses. On avait la formation médicale continue et on avait l'évaluation des pratiques professionnelles. Le DPC qui n'a pas démarré en France, le vrai DPC, où on fait de l'évaluation des pratiques professionnelles. Et donc, les médecins étaient très intéressés parce que leur logiciel ne leur permet pas, toujours aujourd'hui, en quelques clics, de composer un panier de médicaments pour une indication donnée, hein, et de regarder quelle est l'évolution récente de leur propre prescription à l'échelle de leur patientèle. Hein, et donc là, ils l'avaient, ça. Et c'est un des éléments qui a conditionné les résultats excellents qu'on a eus à chaque fois.
Alors, nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la santé dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Gérard, nous accueillons François Pesty, qui est consultant sur les questions de médicaments et qui a beaucoup travaillé auprès des caisses d'assurance maladie pour tenter de modifier certaines habitudes de prescription, pour tenter d'améliorer ces prescriptions médicamenteuses. Alors, une toute petite remarque, il y a eu beaucoup de mots un peu techniques, un peu pointus, et surtout quelques idées très fortes et très justes sur certaines indications. Je ne voudrais pas que parmi nos auditeurs, ceux qui sont traités par ces médicaments s'inquiètent outre mesure. Surtout, nous ne sommes pas une émission ni de prescription ni de déprescription. Adressez-vous à votre médecin traitant. Si vous avez des doutes et des questions sur les traitements que vous prenez et qui ont été cités au cours de la première partie, surtout avant de prendre quelques décisions que ce soit, voyez votre et demandez l'avis de votre médecin traitant.